רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. והווה זעיר במצווה קלה, כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שררן של מצוות, והווה מבחשב הפסד מצווה כנגד שחרה, ושחר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלושה דברים, ויהי אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. Rabbi nous enseigne la chose suivante. Quelle est la voie que l'homme doit emprunter? Il doit emprunter une voie qui fait son bonheur et qui fait aussi le bonheur aux autres grâce à lui. Sois scrupuleux, nous dit la suite de la Mishnah, sois scrupuleux aussi bien dans les mitzvot de moindre importance que dans les mitzvot qui sont plus importante, car tu ne sais pas du tout quelle est la récompense qui ressortira de chaque mitzvah que tu accompliras. Fais également le calcul. Combien te rapporte le fait de ne pas faire une mitzvah par rapport à ce que tu gagnerais si tu la faisais? Et calcule également combien peut te rapporter à une avéra. Et combien tu perds en vérité en faisant une telle avéra par rapport à ce que tu gagnerais si tu ne faisais pas cette avéra. Regarde également trois choses que tu ne dois jamais perdre de vue. Regarde, et si tu regardes effectivement ces trois choses, tu ne commettras jamais d'avéra, tu ne commettras jamais de faute. Sache et regarde qui est au-dessus de toi, dont les yeux te voient, et dont les oreilles t'écoutent. Et sache que tous tes actes sont tous inscrits dans le livre. Nous avons donc ici plusieurs enseignements. Le premier enseignement, qui est très important, nous dit la chose suivante, qui bien entendu demande une explication. Lorsque tu empruntes, lorsque tu choisis une ligne de conduite, choisis effectivement une ligne de conduite, nous dit en substance la Mishnah, qui fasse et ton bonheur et celui des autres. Évidemment, cela est un petit peu étonnant. Nous avons toujours entendu que la mitzvah, c'était de faire le bonheur des autres, mais pas spécialement de rechercher aussi son bonheur. Voilà un enseignement qui apparemment nous dit qu'il faut aussi rechercher notre bonheur. Ça veut dire quoi, rechercher notre bonheur? Est-ce qu'on est là pour nous contenter nous-mêmes, pour nous satisfaire nous-mêmes? Évidemment, l'explication est à chercher ailleurs. Nous dit le Rambam que ici, en vérité, la Mishnah fait l'éloge de ce qu'on appelle la voie médiane. Qu'est-ce que c'est la voie médiane? Prenons un exemple. Celui, par exemple, de celui qui doit donner de l'argent, ou qui veut donner de l'argent pour la tzedaka. Ici, la Mishnah nous dit, selon le Rambam, qu'on doit emprunter une voie qui fasse le bonheur de l'autre. C'est-à-dire de lui donner la tzedaka, d'être généreux avec l'autre, de l'aider, de le servir autant qu'on le puisse. Parce que si on reste avare, si on reste radin, aussi bien dans ses dons que dans ses actes, alors on ne fera pas le bonheur de l'autre. Le bonheur de l'autre implique donc que l'on soit généreux. Mais l'on doit aussi préserver notre bonheur. Ça veut dire quoi, préserver notre bonheur? C'est-à-dire qu'on ne doit pas donner de trop de manière à ce qu'on soit à ce moment-là en manque. On doit donner l'argent, l'argent que l'on a pour la tzedaka, de manière aussi à nous préserver nous-mêmes et avoir suffisamment pour continuer à vivre. C'est cela que le Rambam appelle la voie moyenne. La voie moyenne, c'est de ne pas tomber dans l'excès. C'est en vérité la condamnation de l'excès qui est ici en jeu. C'est-à-dire que si la Torah condamne l'excès, ce n'est pas parce qu'on ne doit pas faire notre maximum pour arriver, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour pratiquer les mitzvot. Il est évident ici que l'on ne doit pas rester médiocre ou moyen dans la pratique de nos mitzvot. On doit arriver au maximum de spiritualité, au maximum dans la pratique de nos mitzvot. En tout cas, le maximum que l'on puisse faire. Mais le maximum n'implique pas l'excès. Parce que l'excès, lui aussi, mène à la faute. Si, par exemple, on donne trop de manière à ce que l'on n'ait plus de quoi vivre, alors à la fin, on va demander de l'argent aux autres. On va nous-mêmes arriver à un point où on demande la tzedaka. Et donc, finalement, on va arriver à faire du tort aux autres. Non pas que de demander de la tzedaka soit en soi un tort, si l'on n'a effectivement rien du tout. On doit même demander, on ne doit pas se priver. Mais donner tout ce qu'on a, au point de ne plus rien garder pour soi, avec pour conséquence que finalement on va avoir à notre tour besoin des autres, après avoir tout donné aux autres, cela c'est une faute. Cela c'est une faute parce que sous prétexte d'avoir voulu aider les autres, finalement on va avoir besoin des autres, on va leur reprendre d'une certaine manière ce qu'on leur a donné. Rav Avadia Yosef nous donne d'autres exemples, parce que cet exemple de la voie moyenne que l'on a pris pour celui, par exemple, qui veut ou qui doit donner de l'argent, c'est valable également pour tout. Nous parle Rav Avadia Yosef d'une autre mida, d'un autre trait de caractère, celui de la colère. Évidemment, celui qui se met en colère, nous dit la Gemara, c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie, c'est comme s'il niait la Torah. Celui qui prêche dans les excès de colère se conduit comme si Akadosh Baruch Hu n'existe plus. Parce que celui qui sait que Akadosh Baruch Hu est au-dessus de lui, il sait que tout ce qui lui arrive vient d'Hachem et donc il ne tombera jamais dans la colère. Mais est-ce que cela veut dire que l'on doit supprimer la colère, qu'on doit extirper la colère de nous-mêmes au point de rester calme dans toutes les circonstances quelles qu'elles soient? Cela non plus, on ne doit pas le faire. Parce qu'il y a des moments où effectivement, on doit savoir se mettre en colère. Lorsque l'on voit des gens qui ne se conduisent pas selon la ligne de la Torah, lorsque l'on voit des gens qui font du tort aux autres ou qui font du tort à eux-mêmes, on doit à ce moment-là savoir se mettre en colère pour les remettre sur le droit chemin. Une colère ici qui a pour but de les ramener à la vérité. Parce que si on se tait ou si on n'est pas capable de réagir en face d'une attitude qui est une mauvaise attitude, alors là aussi on tombe dans la faute. Autrement dit, encore une fois, pas d'excès. Maîtrise ta colère, ne tombe pas en colère constamment, ou même de temps en temps si ce n'est pas nécessaire, mais sache garder ta colère pour les moments où elle sera nécessaire, où il faudra se mettre en colère, notamment lorsqu'il faudra, par exemple, remettre quelqu'un sur le droit chemin. Le fait de lui dire calmement, malheureusement, ne suffit pas toujours. Ce que la Torah nous enseigne ici, ce que nos sages nous enseignent ici, c'est qu'il n'est pas de mida qui soit foncièrement mauvaise. Qu'est-ce que c'est qu'une mida? Une mida, c'est un trait de caractère. Alors les gens ont souvent l'habitude de dire il y a des bons traits de caractère comme des mauvais traits de caractère. Il y a des bonnes midotes comme des mauvaises midotes. Le calme est une bonne mida, la colère est une mauvaise mida. L'avarice est une mauvaise mida, la générosité est une bonne mida. Nous disent nos sages, non. Toutes les midotes qu'Akadosh Baruch Hu a créé en essence sont bonnes. Ce qui est mauvais, c'est la mauvaise utilisation que nous on fait de ces midot. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la force de nous mettre en colère, c'est pour garder la colère, comme nous l'avons expliqué, pour le moment où on est nécessaire. Mais la maîtriser et ne pas se mettre en colère quand il ne le faut pas. La mauvaise utilisation de cette mida que constitue la colère, c'est cela qui est mauvais. Comme nous l'avons vu dans des Mishnayot précédentes en ce qui concerne la parole. Lorsque nos sages nous mettent en garde en nous disant « la parole peut être mauvaise et le silence est d'or », non pas qu'il y ait ici une condamnation de la parole, mais il y a ici une condamnation d'un excès de parole, d'une parole qui est mal utilisée. Mais de même qu'une parole bien utilisée est une très grande mitzvah, c'est même la plus grande mitzvah qui puisse être, de même chez une mida qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous, bien utilisée, c'est là aussi une très bonne mitzvah, une très grande mitzvah. Et c'est l'excès de l'utilisation de cette mitzvah, sa mauvaise utilisation, qui constitue une faute. En vérité, ce que nous disent nos sages, une fois de plus, c'est de nous ramener à la réflexion. Akadosh Baruch Hu a mis en nous la raison. Il n'a pas mis en nous la raison juste pour essayer de mener à bien notre business ou pour essayer d'augmenter notre confort. Il nous a mis en nous la raison pour nous guider, pour qu'on l'utilise dans la pratique des mitzvot. Et que l'on sache quand utiliser les midot qui sont en nous et aussi quand ne pas les utiliser. Nous dit la Mishnah également qu'il faut être très scrupuleux dans la pratique de nos mitzvot. Et que l'on ne doit pas mépriser une mitzvah qui nous semblerait d'une moins grande importance, même si effectivement il peut y avoir des mitzvot plus importantes que celle-là. Pourquoi ? Là encore, le Pirkei Avot nous donne la raison. Parce qu'on ne connaît pas la récompense d'une mitzvah. Nous explique Rebbe Tenora et Rabbeinu Yona que contrairement aux Averot, les mitzvot, elles, restent pour nous avec une part d'inconnu. Comme tout le monde le sait, il y a ce qu'on appelle les mitzvot lota'asé, c'est-à-dire les interdits, ce que le Pirkei Avot ici appelle les averot, et les mitzvot asé, c'est-à-dire les obligations, ce que l'on appelle ici une mitzvah. Les mitzvot lota'asé, les interdits, on connaît quelle est leur punition. On sait que certaines mitzvot, certaines averot, certains interdits sont punis de mort, d'autres sont punis de la bastonnade, d'autres sont punis du fait que l'on est retranché du monde ou que l'on n'a pas d'enfant. Et donc, chaque mitzvah, lota'asé, chaque interdit a une punition très spécifique et cette punition est effectivement marquée, est effectivement inscrite dans la Torah et elle est expliquée par nos sages dans la Gemara et dans les Midrashim. Lorsque l'on nous parle des mitzvot, c'est-à-dire des obligations, des mitzvot asé, effectivement, on ne nous dit pas quelles sont les récompenses. Et on ne nous dit pas quelles sont leurs récompenses. Et c'est pour ça que l'on doit être très prudent et ne jamais, jamais mépriser une mitzvah en disant « Bon, c'est une mitzvah légère, c'est une mitzvah qui n'est pas finalement très importante, je ne la ferai pas. » Pourquoi la Torah ne nous spécifie-t-elle pas la récompense qui a trait à chaque mitzvah, de même qu'elle nous spécifie pourtant la punition qui a trait à chaque interdit. Ici, le Baal Tenora et Rashi et Rabbeinu Yona nous en ramènent l'explication. Ils nous disent la raison. Imaginez-vous, nous disent-ils, et cela est ramené dans le Midrash, qu'un roi vous demande de planter des arbres dans son champ. Il nous dit, si tu plantes cet arbre-là, tu auras un très gros salaire, et si tu plantes cet arbre-là, tu auras un salaire beaucoup plus moyen. Évidemment, quelle sera l'attitude du paysan ou de celui qui travaille pour le roi? Il ne plantera que les arbres qui entraînent derrière eux un salaire important, et les arbres dont le salaire sera moyen ou sera moindre, il ne les plantera pas. C'est la raison, nous disent Rashi et Rabbeinu Yona, pour laquelle Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas, ne nous spécifie pas les récompenses qui ont trait à chaque mitzvot. Parce que si on savait que telle mitzvah entraîne une récompense plus grande que telle autre, alors on ne ferait que les grandes mitzvot, celles dont la récompense est importante, et on oublierait les autres. Et cela aussi, c'est une faute. Et pourquoi cela est une faute? Parce que, nous dit Rabbi Yona, et ça, c'est la deuxième explication qui nous ramène à cette Mishnah, même la mitzvah qui est de moindre importance, même la mitzvah qui est en apparence la plus légère, la plus anodine, il n'y a pas de limite à sa récompense. La récompense même de la mitzvah la plus petite est énorme. Elle est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et s'il en est ainsi pour une petite mitzvah, à plus forte raison, il en sera ainsi pour une mitzvah de plus grande importance. La Gemara dans Shabbat nous ramène une histoire en ce qui concerne un chassid qui voulait faire un mur autour de son jardin afin de le protéger. Et quand est-ce qu'il pensa au mur? Il pensa au mur Shabbat. Tout de suite, il se rappela que c'est Shabbat, et donc, à cause de cela, il décida de ne pas construire le mur même une fois que Shabbat serait passé. Pourquoi? Parce qu'il avait, étant donné qu'il avait osé penser à la construction du mur pendant Shabbat, il décida, pour s'éloigner de la Avera, de ne même pas construire le mur une fois que Shabbat serait passé, ce qui n'était pourtant pas interdit par la Halakha. Mais il s'agit bien entendu d'une mitzvah qui va au-delà, comme nous le disions, au-delà de ce que la halakha, de ce à quoi la halakha nous oblige. Et quelle fut la récompense de ce chassid qui décida de ne pas construire le mur, même une fois que Shabbat est terminé, parce qu'il avait osé penser à ce mur Shabbat, bien qu'il s'agit là d'une mitzvah apparemment de moindre importance, puisque la halakha ne nous oblige pas à faire cette mitzvah-là. La récompense de ce chassid fut qu'à la place du mur qu'il avait décidé de ne pas construire, poussa un arbre ou une plante qui lui permit de survenir à ses besoins et aux besoins de toute sa famille jusqu'à la fin de sa vie. Imaginez un petit peu ici ce qui s'est passé. Ce chassid-là n'a pas voulu construire ce mur simplement parce qu'il avait osé penser à la construction d'un tel mur Shabbat. Et que sortit de cela, de cette décision qu'il prit de ne pas construire le mur? Il sortit de cela une plante ou un arbre qui lui permit de subvenir à ses besoins de toute sa famille. Celui qui entend cette histoire se dit, ça c'est l'histoire du chassid. Mais en vérité, ce n'est pas seulement l'histoire du chassid. C'est notre histoire à nous également. C'est notre histoire à nous. Chacune des mitzvot que l'on fait, y compris celles qui sont en apparence d'une moindre importance, chacune de ces mitzvot a des résultats non seulement dans le monde futur, mais également et parfois dans ce monde-ci. La seule différence, c'est que contrairement à ce chassid qui a pu voir un lien direct entre la mitzvah qu'il avait fait et la récompense qui s'en suivit, nous, on ne nous montre pas toujours, et la plupart du temps, on ne nous montre pas les récompenses qui s'en suivent des mitzvot que l'on fait. Mais cette récompense est néanmoins réelle. Dans la quotidienneté qui nous affecte, la quotidienneté dans laquelle on vit tous les jours, on a souvent des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Et on ne sait pas avec quoi elles sont en rapport. Mais il se peut que les bonnes surprises, y compris les meilleures surprises qui puissent être, sont certainement une conséquence directe de mitzvot que l'on a pu faire, y compris de mitzvot qui, sur le moment, ne nous semblaient pas importantes. La suite de notre Mishnah nous dit qu'avant de décider de ne pas faire une mitzvah, il faut peser le pour et le contre. Se dire finalement, qu'est-ce qu'on gagne à ne pas faire une mitzvah, ou plutôt qu'est-ce qu'on perd, par rapport à ce que l'on gagnerait si l'on faisait cette mitzvah. Même calcul en ce qui concerne la Avera. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant une Avera par rapport à ce que l'on gagnerait si l'on ne faisait pas cette Avera? Pourquoi doit-on faire ce calcul? Apparemment, ce calcul nous semble évident. Tout le monde sait que l'on perd plus à ne pas faire une mitzvah qu'à la faire. Et tout le monde sait qu'on perd beaucoup plus également à faire une avéra plutôt que de ne pas la faire. Donc, pourquoi vous nous rappelez un calcul qui apparemment semble si évident? Peut-être qu'il y a un midrash sur lequel le Sabba Mikelem vient nous éclairer et qui apportera une réponse à la question que nous venons de poser. Le midrash nous raconte que lorsque les frères de Yosef reconnurent leur frère, ils s'évanouirent. Ils ne s'évanouirent pas seulement, ils moururent. Le fait d'avoir reconnu leur frère leur produisit chez eux un tel choc qu'ils en moururent sur le champ, qu'ils en sont morts sur le champ. Que fit le malard? Que fit l'ange? L'ange vint et les ressuscita. À peine ressuscités, que firent les frères de Yosef? Ils décidèrent de courir vers Yosef pour le tuer, pour essayer de refaire ce qu'ils avaient déjà essayé de faire une première fois avant que leur frère les quitte pour l'Égypte. Ce midrash demande bien entendu une explication. Et c'est le Sabba Mikelem qui nous éclaire sur cette et qui nous donne cette explication. Nous dit le Sabba Mikelem que la raison pour laquelle les frères de Yosef s'évanouirent au point de mourir du choc de voir leur frère est due au regret et dû à la tourmente qu'ils avaient de s'être mal conduits avec lui. Imaginez-vous, nous dit le Sabba Mikelem, la tzidkout, la sainteté des frères de Yosef. Les frères de Yosef, qui étaient de véritables héros de guerre, des héros devant lesquels le monde entier tremblait, qui n'avaient peur de rien, moururent d'effroi en voyant leurs frères, tellement ils se sentirent mal, du mal qu'ils avaient voulu faire à leurs frères. Y a-t-il tchouva plus grande que celle-là, repentance plus grande que celle-là, de regretter l'acte qu'on a voulu faire au point d'en mourir, au point que ce regret entraîne notre mort. Et pourtant, à peine ressuscité par le malard, par l'ange, ils décidèrent de repartir à l'attaque et de tuer leur frère comme s'ils n'avaient pas fait de chouva là-dessus. Cela nous montre, nous dit le Saba Mikelem, la force de l'inconscient et surtout la force du Yetzer, la force du mauvais penchant. Le mauvais penchant qui est en nous est tellement fort que même ce qui semble être en apparence la plus grande tchouva, la plus grande repentance, ne peut, dans certaines circonstances, nous empêcher de retomber dans le piège du Yetzer. Et c'est cela, nous dit Raphaïm de Vologim, l'explication de l'enseignement que nous venons de donner dans notre Mishnah. L'homme, aussi tzaddique puisse-t-il être, ne pourra échapper à l'avéra et même aux pires avérotes si effectivement il n'essaye pas de se rappeler nuit et jour, ou du moins d'une manière constante. D'une manière constante, le srar, ce que l'on a à perdre à ne pas faire des mitzvot et ce que l'on a à perdre en faisant des avérotes. Pour justement ne pas retomber dans le piège du Yetzer Hara, comme nous l'avons vu dans le Midrash que nous avons cité tout à l'heure, pour ne pas retomber dans le piège du Yetzer Hara, il existe un seul traitement, un traitement préventif, qui est de se rappeler constamment, ou du moins d'ancrer, d'enraciner dans notre conscience, avant même que l'on en vienne à l'avéra, tout ce que l'on peut perdre en faisant une avéra, tout ce qu'on peut gagner en faisant une mitzvah. Seul ce traitement-là préventif, seul le fait d'être conscient avant même d'en arriver à l'épreuve, seul cet état de conscience-là peut nous permettre réellement de faire la mitzvah et de ne pas tomber dans le piège du Yetzer Hara. Nous dit à la fin la Mishnah que l'on doit savoir qui est au-dessus de nous, on doit aussi savoir qu'un œil nous voit et qu'une oreille nous entend. Ici, bien entendu, la Mishnah s'exprime de manière imagée. Lorsqu'elle nous dit l'œil ou est-ce qu'elle nous dit l'oreille, elle parle soi-disant de l'oreille d'Akadosh Baruch Hu, de l'œil d'Akadosh Baruch Hu. Nous savons tous qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus de la matière et qu'il n'a ni œil ni oreille. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne nous voit pas et qu'il ne nous entend pas. Il n'a juste tout simplement pas besoin des organes du corps comme l'homme a besoin pour voir et entendre. Pourquoi nous rajouter cet enseignement après tout ce que nous avons dit? Là encore, cela nous semble simple, nous semble évident. Nous explique le Maharal ici que lorsque la Mishnah nous donne cet enseignement, elle veut tout simplement nous éviter de tomber dans le piège de certains philosophes, qui disent que bien qu'ayant créé Akadosh Baruch Hu, le monde, Akadosh Baruch Hu reste au-dessus de l'univers. Il reste au-dessus de la création qu'il a faite. Et il ne s'intéresse pas à nous. Cela, c'est l'idée que veulent dire les Rechaim, que veulent répondre ceux qui ne veulent pas aller dans le chemin de la Torah. Cette idée-là a été reprise par les plus grands philosophes de tous les siècles. Et c'est contre ces idées mauvaises que le Pirkei Avot vient nous mettre en garde, en nous disant non. L'immense grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde n'empêche pas Akadosh Baruch Hu de s'intéresser à nous, de s'intéresser même à sa création, même si en apparence, et pas seulement en apparence, mais dans la réalité, une infinie grandeur nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Cette infinie grandeur qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu ne doit pas nous amener à penser qu'Akadosh Baruch Hu ne s'intéresse pas à nous, qu'il ne nous voit pas et qu'il ne nous entend pas. Cela fait au contraire partie de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu que malgré l'infinie distance qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu, malgré l'infinie distance qui sépare le créateur de la création, Akadosh Baruch Hu continue à s'intéresser à nous, nous voit tout ce que nous faisons, entend tout ce que nous faisons et les inscrit dans un livre dont on nous rappellera, qui nous sera rappelé au moment du jugement.